Focus.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Focus Recherche, votre rubrique autour des avancées, autour de la maladie d'Alzheimer. Alors aujourd'hui, on parle de troubles du sommeil. On le sait, dans la maladie, ils peuvent survenir bien avant que le diagnostic n'ait été posé. Mais sont-ils causés par la maladie ou alors sont-ils un facteur de risque? Des questions que nous allons poser à Géraldine Roche, chargée de recherche à l'INSERM et qui a étudié les modifications du sommeil paradoxal. Et elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, est-ce que les troubles du sommeil sont liés à la maladie d'Alzheimer ou non?
Chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, on observe des troubles du sommeil, mais on les observe aussi chez le sujet âgé qui n'a pas de pathologie neurodégénérative. Donc la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ces troubles du sommeil sont juste une conséquence de la maladie ou est-ce que ça peut être aussi un facteur de risque? Donc en fait, au cours du vieillissement, ce qu'on va observer, c'est que le sommeil, il est plus fragmenté. On a du mal en fait à rester dans un stade de sommeil pendant une période assez longue, donc le sommeil est haché. On va avoir aussi des difficultés d'endormissement, un réveil matinal précoce, si bien que les individus ont le sentiment d'avoir un sommeil qui est moins récupérateur. Et sur les plans des stades de sommeil, ce qu'on va observer chez le sujet âgé, c'est une réduction du sommeil lent profond. Donc un stade de sommeil qui est très important pour la récupération physique, mais qui sert aussi pour la mémorisation. Et chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, eh bien, tout ce qu'on observe chez le sujet âgé va être exacerbé. Donc on va avoir toutes les modifications, difficultés d'endormissement, le sommeil qui est plus fragmenté, mais avec une intensité encore plus forte. Et puis, on va observer aussi des modifications du sommeil paradoxal que l'on observe beaucoup moins, en fait, chez le sujet âgé.
Alors, une fois qu'on a dit cela, cérébralement, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on dort mal dans les cas que vous venez d'énoncer?
Alors, c'est quelque chose qui est étudié depuis quelques années seulement. Quand on dort mal, eh bien, on va se rendre compte qu'il va y avoir certaines régions du cerveau qui vont moins bien fonctionner. Donc, si on dort pas très bien une nuit, bah, le lendemain, voilà, on va devoir activer plus certaines régions parce qu'on va avoir du mal à faire certaines tâches. Mais on s'est rendu compte en fait que quand le sommeil est de mauvaise qualité sur des durées assez longues, eh bien ça va perturber de manière plus profonde en fait le fonctionnement du cerveau. On va avoir une atrophie, donc une perte de neurones dans différentes régions cérébrales. Les connexions aussi qui permettent de relier et de faire communiquer des régions distantes du cerveau, eh bien elles vont être moins efficaces, donc la communication va moins bien se faire. Et puis, les travaux qu'on a pu faire, notamment dans le laboratoire, montrent aussi que quand on a un sommeil de mauvaise qualité, eh bien, on peut favoriser aussi l'accumulation d'une protéine toxique, qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde, qui est responsable d'une des lésions caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Et il y a d'autres travaux un peu plus récents qui montrent que ça jouerait aussi sur l'agrégation de la protéine tau, qui constitue l'autre type de lésion.
Comment avez-vous mené vos recherches ?
Ce que l'on fait à Caen depuis, on va dire, 7-8 ans, c'est donc on suit des cohortes de sujets âgés auxquels on propose donc des tests neuropsychologiques pour évaluer différentes fonctions, la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives. On leur propose aussi différents examens d'imagerie qui vont vraiment nous permettre d'examiner le cerveau sous toutes ses coutures. Et puis, on va réaliser aussi une exploration du sommeil. Alors, l'exploration du sommeil, chez nous, elle a la particularité d'être vraiment complète parce qu'on va proposer à la fois des questionnaires qui permettent vraiment d'avoir le ressenti de la personne sur la qualité de son sommeil. On va faire aussi des enregistrements par actimétrie pour enregistrer en fait le cycle activité-repos et voir en fait les rythmes biologiques des individus. Et puis on va utiliser aussi la polysomnographie qui est vraiment l'examen de référence pour enregistrer le sommeil et qui va nous permettre d'avoir des informations sur les stades, comment est composée la nuit. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on analyse aussi des ondes très spécifiques qui vont être impliqués dans certains processus comme la mémorisation. Et l'originalité de nos travaux, c'est qu'on va analyser ces données conjointement. Donc on va mettre en relation les données de sommeil avec les données d'imagerie et aussi avec les données cognitives. Et l'autre point qui est important, c'est qu'on va suivre en fait ces personnes sur de nombreuses années afin de voir si en fait la qualité du sommeil, lorsqu'on les a vus pour la première fois, elle va prédire l'évolution des atteintes cérébrales ou prédire aussi la diminution des scores au test cognitif.
Alors pourquoi vous étudiez le sommeil paradoxal et pas un autre cycle?
Alors en fait, là, vous faites référence à une étude qui est sortie en début d'année là dans Annals of Neurology où on s'est intéressé au sommeil paradoxal parce que c'est un stade de sommeil qui est modifié alors de manière un peu spécifique chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. mais on s'est intéressé aussi aux autres stades de sommeil. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre l'impact des perturbations du sommeil lent, du sommeil paradoxal sur le cerveau et d'essayer de comprendre en fait leurs contributions respectives. Donc on est en train de faire des analyses sur des données recueillies pendant le sommeil lent. Et puis donc là, on a publié cette première étude sur le sommeil paradoxal avec un résultat qui est vraiment intéressant, c'est qu'on montre que le sommeil paradoxal, les modifications du sommeil paradoxal au cours du vieillissement, elles seraient associées à une accumulation de la protéine toxique dont je parlais tout à l'heure, là, la protéine bêta-amyloïde. Et c'est vrai que pour l'instant, dans la littérature, les équipes, elles ont montré plutôt des liens avec le sommeil lent profond, mais ça n'a pas été répliqué par toutes les équipes. Donc, ça montre en fait que les liens entre le sommeil et puis toutes ces anomalies cérébrales, il est beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait penser à première vue.
Alors, quels sont les résultats les plus probants que vous avez mis en avant avec toutes vos recherches par rapport à la maladie d'Alzheimer et le sommeil ?
La difficulté, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur cette thématique dans de nombreuses équipes. Et en fait, on montre tous des liens entre certains paramètres de sommeil et puis les atteintes cérébrales. Mais pour l'instant, c'est difficile, en fait, d'avoir une vision très, très claire de quel est le paramètre qui est le plus important en termes de prévention, en fait. Parce que l'objectif de nos travaux, c'est quand même que ça puisse apporter quelque chose aux patients, à leurs familles et que ça permette, en tout cas, peut-être de différer l'apparition des symptômes ou de ralentir la progression de la maladie. Alors, ce qui est sûr, c'est que certains de nos travaux et puis d'autres équipes ont montré que la durée de sommeil avait l'air d'être un facteur qui est vraiment important par rapport à ce risque de démence et que les gens qui dorment depuis de nombreuses années peu, donc on va dire moins de 6 heures par nuit, ils auraient un risque plus élevé de développer une maladie d'Alzheimer. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui dorment moins de 6 heures vont développer une pathologie, mais en tout cas, elles ont un risque plus important. Et puis nous, on a montré aussi que les difficultés d'endormissement, elles sont associées aussi à l'apparition de lésions dans des régions qui sont précocement touchées par la maladie d'Alzheimer. Et puis une autre de nos études, là, qui est beaucoup reprise, elle concerne les apnées du sommeil. Donc c'est une pathologie qui est bien connue, qui est très très fréquente au cours du vieillissement et qui est sous-diagnostiquée parce qu'elle peut rester longtemps en fait sans signes cliniques. On a l'image en fait du patient apnéique qui est en surpoids, qui fait pas beaucoup d'activité, qui ronfle très fort. Et en fait, c'est pas systématiquement ça. Ce sont des facteurs de risque, le surpoids, la sédentarité. Mais on peut aussi avoir des apnées du sommeil chez une femme toute fluette qui a une très bonne hygiène de vie. Et ce qu'on a montré aussi, c'est que les apnées du sommeil, elles sont associées à une accumulation de protéines toxiques dans une région qui est très précocement touchée par la maladie d'Alzheimer. Donc, si on souffre d'apnée du sommeil et que celles-ci ne sont pas traitées, eh bien, on va augmenter, là encore, notre risque de développer la maladie.
Alors, quelles sont les suites à ces avancées, d'autres études de prévues, d'autres tests sur des patients âgés ?
C'est un travail qui est toujours en cours. Donc, on essaie de comprendre de plus en plus finement, en fait, l'impact des troubles du sommeil ou d'une mauvaise qualité de sommeil sur le cerveau, sur le fonctionnement cognitif. Donc là, on suit les personnes sur plusieurs années pour essayer de voir comment elles évoluent. Donc ces analyses sur le long terme, elles sont en cours. Et puis, ce qu'on fait aussi à Caen, c'est qu'on essaye de voir l'effet d'une intervention non pharmacologique. Donc là, en l'occurrence, nous, on travaille sur la méditation ou sur l'apprentissage d'une langue et essayer de voir si, en fait, le fait d'avoir fait cette intervention pendant 18 mois va permettre d'améliorer la qualité du sommeil et potentiellement de limiter les lésions cérébrales. Donc nous, on est vraiment dans une perspective donc déjà de prévention, donc d'identifier les facteurs de risque qui vont potentiellement augmenter notre probabilité de développer la maladie et puis d'essayer de proposer des interventions, mais qui ne passent pas par le médicament. Ce n'est pas ce qui est privilégié, en tout cas, lorsqu'on travaille sur le sommeil. Hein, le médicament est qu'une aide ponctuelle, mais vraiment d'essayer de tester scientifiquement différentes interventions et de voir si elles peuvent être appliquées après à grande échelle dans la population générale.
Et enfin, dernière question, même si je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'avancées sur la recherche autour de la maladie d'Alzheimer, des connaissances qui s'accumulent. Tout ça, ça va permettre quoi à terme ? Est-ce qu'on peut espérer un jour un traitement ou en tout cas une amélioration des conditions de vie ?
Alors bien sûr, il faut garder espoir. Hein. Il y a énormément de laboratoires qui travaillent sur le développement de traitements. Donc voilà, il y en a toujours qui sont en test. Donc moi, j'ai quand même bon espoir qu'on arrive à trouver une solution à cette maladie dans les années qui viennent. Bien sûr, pour les patients et leurs familles, c'est toujours plus long hein, que ce qu'on espère. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en tout cas, il y a aussi, à côté de cette recherche sur le traitement, il y a tout un aspect de recherche sur la prévention et que, ben voilà, on va identifier de plus en plus de facteurs de risque, on va être capable en fait de développer des interventions qui vont nous permettre en fait de contrecarrer un petit peu ces facteurs de risque ou au contraire de stimuler certains facteurs de protection et permettre aux gens en tout cas de vivre cognitivement en étant en bonne santé, en étant encore autonome, en pouvant rester à leur domicile plusieurs années. Et j'ai envie de vous dire, si on peut permettre à des personnes de rester 3 ans ou 5 ans de plus avec leur famille à la maison, c'est déjà, en termes de qualité de vie, un bénéfice important. Donc voilà, la recherche et l'avance sur ces deux aspects, et bien sûr qu'à terme, on trouvera une solution, il faut garder l'espoir.
Eh bien, merci pour cette conclusion, Géraldine Roche.
Merci à vous.
Et merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Focus Recherche. Vous pouvez bien sûr écouter et réécouter tous nos podcasts sur le www.radiofrancealzheimer.org. À bientôt et prenez soin de vous.
C'était Focus, le podcast qui s'intéresse aux initiatives, à la recherche et au quotidien autour de la maladie d'Alzheimer.